France Inter.
Le journal Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, un nouveau statut de repenti pour lutter contre le crime organisé.
C'est ce qu'annonce le ministre de la Justice dans une interview à la Tribune dimanche. La loi actuelle est peu utilisée, trop complexe. Éric Dupond-Moretti veut s'inspirer de l'exemple italien pour lutter contre la mafia. Explication des débuts de ce journal. Dans l'actualité également, l'Europe ouvre ses portes à 6 semaines des élections. Visite guidée au Parlement de Strasbourg pour les curieux et les indécis. La sécheresse qui frappe les producteurs de cava, ce vin mousseux catalan dans la région de Barcelone. Et puis, pas encore champion, la fête attendra encore un peu pour le PSG, tenu en échec 3-3 hier soir par Le Havre.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50. Son dernier ouvrage, L'Anomalie, a séduit près d'1,5 million de lecteurs. Hervé Le Tellier se lance cette fois dans une enquête sur un jeune résistant tué en 1944. Ça s'appelle Le nom sur le mur et on a le bonheur d'accueillir l'écrivain juste avant 8h. Et à 8h20, sommes-nous entrés dans l'ère de la récession sexuelle? Pourquoi et comment y remédier? Question posée à nos deux invités, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui consacre un dossier à ce délicat sujet, et la sexologue Olivia Benhamou.
France Inter.
Le modèle a fait ses preuves en Italie pour lutter contre la mafia, comme lors du grand procès de Palerme en 1986, avec des centaines d'accusés jugés grâce au témoignage d'un ancien chef mafieux. La France veut se doter d'un véritable statut de repenti, annonce ce matin d'Éric Dupond-Moretti dans la Tribune dimanche. Actuellement, 42 personnes en France sont protégées par la police parce qu'elles ont collaboré avec la justice. Mais pour le ministre de la Justice, la loi actuelle, Pierre de Cossette, ne va pas assez loin.
Pour Éric Dupond-Moretti, la loi qui encadre aujourd'hui le statut du repenti est peu efficace. Le constat n'est pas nouveau. Entre le texte de 2004 qui a créé le statut du repenti en France et les décrets d'application, il s'est déjà passé 10 ans. Et surtout, les spécialistes le reconnaissent, l'ensemble manque cruellement de clarté. Il y a 2 mois, le magistrat qui préside la commission de protection des repentis n'a pas fait mystère de l'opacité du dispositif. Exemple, il n'existe même pas de texte qui liste précisément qui peut bénéficier de ce statut. Les 32 cas sont éparpillés dans le code pénal. Quant aux tribunaux, rien ne les oblige à tenir compte du statut de repenti d'un accusé qui peut être condamné lourdement alors qu'il pensait bénéficier d'une réduction de peine. Éric Dupond-Moretti veut donc encourager des hommes et des femmes à briser l'omerta. Pas de grand catalogue de mesures à ce stade, une proposition tout de même, offrir aux repentis la possibilité de changer définitivement d'état civil.
Et autre annonce pour lutter contre la criminalité organisée, la création d'un nouveau parquet à compétence nationale sur le modèle du parquet financier et du parquet antiterroriste. Il s'appellera le PNACO. On y revient dans nos prochaines éditions. Emmanuel Macron prêt à ouvrir le débat sur la défense européenne, y compris avec la dissuasion nucléaire. Dans un entretien aux journaux du groupe EBRA, le président de la République propose de tout mettre sur la table et de regarder ce qui nous protège véritablement de manière crédible. Depuis le Brexit, la France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. La défense européenne, c'est l'un des enjeux des élections dans 6 semaines. Un scrutin qui mobilise peu en France, 50% de participation seulement en 2019. Car on connaît mal les institutions européennes et leur fonctionnement. Qu'à cela ne tienne, le Parlement européen de Strasbourg a ouvert ses portes hier aux visiteurs. Rendez-vous fréquenté par les curieux et les indécis et suivi par Paola Guzzo pour France Bleu Alsace.
Le Parlement accueille les curieux en musique. Dans le grand hall, les groupes se succèdent sous les yeux de Juliette. À 29 ans, l'Alsacienne profite des portes ouvertes pour décider de son vote aux élections européennes.
Je viens chercher un peu des informations pour me décider. Je sais ce que je ne vais pas voter, après on verra ce que je vais voter. J'ai vérifié, c'est bon, je suis toujours inscrite.
Comme elle, Erwan est convaincu de l'utilité du scrutin.
Au vu des problématiques qu'on a aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut pas avoir de meilleur levier que par l'Europe.
Mais ce n'est pas le cas de tous les visiteurs aujourd'hui, qui sont pour la plupart venus voir l'hémicycle.
C'est époustouflant, ça vieux.
Soit ça vous-même peu renseigné sur le sujet. Alors quand on lui demande si elle compte voter aux européennes...
On verra bien, selon la motivation.
Pour convaincre les indécis comme elle, le Parlement a tout donné, quiz, jeu, chaque groupe politique a son stand. Ici, on cherche la population de l'Union européenne.
C'est
Mademoiselle Dissé, 448 millions.
Et c'est exactement ce que Clément, 43 ans, est venu chercher.
J'y comprends rien du tout aux élections européennes et aux institutions européennes. Ça donne le tournis, puis je pense qu'il faut quand même avoir la capacité de tout comprendre. Et ça, je pense qu'on y arrive en plusieurs fois. J'ai compris le premier stade, quoi. Je pense que le plus important, c'est de lire les programmes. J'ai encore un peu de travail, je veux dire.
Un travail qu'il ne compte pas lâcher pour prendre serein la direction des urnes le 9 juin prochain.
Et vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales en passant par le site service-public.fr et jusqu'au 3 mai en allant dans votre mairie.
Elle aussi, Corinne, est transfrontalière, la sécheresse qui frappe le sud-ouest de l'Europe.
Parmi les nouvelles mesures pour le monde agricole annoncées hier, un plan d'aide à 3 départements dont les Pyrénées-Orientales, durement touchés par le manque d'eau. Et c'est la même sécheresse qui sévit de l'autre côté de la frontière avec l'Espagne. Dans la région de Barcelone, les producteurs de cava, un vin mousseux catalan très prisé, notamment en Allemagne, sont à la peine. Sans raisin à ramasser, le plus gros producteur renvoie 80% de ses effectifs. Reportage dans la région du cava de notre correspondant Henri de la Guéry.
Sous un soleil intense, des pieds de vigne à moitié morts, un feuillage moins développé, les vignobles catalans souffrent. Soisic Darnay est paysagiste spécialisée dans la viticulture. Elle travaille depuis 20 ans dans le Penedès.
Bon, alors ici, on a des vignes qui ont environ 20-25 ans. Donc a priori, on pourrait penser qu'elles ont les racines suffisamment profondes pour résister à la sécheresse. Sauf que comme c'est 3 ans de sécheresse, les racines qui vont descendre par exemple à 2-3 mètres se sont séchées également. Et elles sont en train de mourir. Il y a environ 30% de ce champ qui est mort ou qui sera absolument incapable de produire cette année.
Freixenet, leader mondial du vin mousseux, dont le nom s'affiche partout ici, évoque un cas de force majeure pour mettre en chômage partiel 80% de ses effectifs. Un coup de massue pour Josep Marugat, c'est le responsable du secteur vigne pour le syndicat Unió de Pagesos.
Beaucoup de gens travaillent chez Freixenet. L'impact est énorme. On parle d'une entreprise qui produit 40% de toutes les bouteilles de cava. C'est très inquiétant, car on voit bien que c'est de plus en plus difficile de maintenir notre production, notre activité et surtout sa viabilité.
Car au-delà de Freixenet, les petits producteurs de cava sont aussi en détresse. Des vignes devront être arrachées. Les syndicats craignent une cascade de licenciements.
Henri de la Guéry. En France, la vigilance aux orages est levée partout, mais plusieurs milliers de foyers restent privés d'électricité dans les départements de la Dordogne, de Corrèze et du Limousin, en raison notamment de chutes d'arbres sur des lignes à haute tension.
Et puis football, Corinne, le PSG n'est donc toujours pas officiellement champion de France.
En concédant le match nul hier soir face au Havre, à domicile au Parc des Princes, 3-3, le Paris Saint-Germain devra attendre encore pour décrocher le 12e titre de champion de France de son histoire. Ce sera fait ce soir si Monaco ne gagne pas à Lyon. Mais au PSG, Julien Froment, on fait comme si c'était déjà fait.
Le Paris Saint-Germain doit encore attendre ce soir et le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco pour être mathématiquement sacré champion de France. Ça, c'est pour la théorie, car dans la pratique, le titre est déjà en poche, selon l'entraîneur parisien Luis Enrique.
On est champion, qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. On est champion de France, sans aucun doute. Une différence de but, plus 29 sur le deuxième, je me sens déjà champion.
Alors oui, c'est vrai, ce match nul face au promu havrais, 3-3, alors que Paris a été mené 3-1, pourrait semer le doute dans l'esprit des joueurs parisiens à 4 jours d'affronter le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Mais aux abords du Parc des Princes, c'est plutôt le contraire. Les supporters affichent une confiance à toute épreuve.
On aurait dû le prendre moins à la légère, mais bon, contre Dortmund, on sera prêt, ça c'est sûr.
Aucune inquiétude, jamais. On va les fracasser, comme on dit.
Jamais, large. Franchement, 2-0, direct, cash. But de Mbappé, but de Dembélé, retenez bien.
Et pour se rassurer définitivement, les supporters parisiens peuvent compter sur leur adversaire, le Borussia Dortmund, qui s'est lourdement incliné hier en championnat face à Leipzig, 4-1.
Le PSG qui prolonge par ailleurs le contrat de son jeune prodige, Warren Zahir Emery. Il a signé jusqu'en 2029.
C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre, Zoom sur cette série en tournage consacrée au naufrage mystérieux et fatal du chalutier Bugal et Braise.